89.4, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, de la Fédération anarchiste, comme ça, un dernier dimanche de premier mois de l'année 2024. Nous voilà pour un direct dans le studio Louise Michel. Avant de commencer, bien sûr, rappelez-vous, vous le savez, vous pouvez trouver toutes sortes de choses, de la musique, des livres, etc., etc., et surtout des livres, et le Monde Libertaire aussi, à la librairie du Monde Libertaire, au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, au métro Filles du Calvaire, au Bas-Camp République. Voilà, on va démarrer une très belle tempête sur les planches.
Quel auditoire sympathique et charmant.
Am Hapta.
Hapta.
Am Tala.
Tala.
Bzaf alina. Le clash bleu feida.
Voilà, c'est Thomas de Hambourg et on commence. Tempête sur les planches, sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. Voilà, ça c'est du vieux, musicalement c'est du vieux. Le micro brise le silence, MBS, c'est du rap de Tunisien, mon frère. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Par hasard, justement par hasard, deux spectacles de théâtre, très beaux spectacles qui ont lieu, qui se jouent dans le même théâtre, la Comédie Nation, près de la place de la Nation, à Paris, bien sûr, mais nous ne sommes pas dans le théâtre, nous sommes en direct dans le studio Louise Michel de Radio Libertaire. Et avant de commencer, juste quelques nouvelles de la compagnie Jolie Môme. Je vais vous faire part de leur communiqué. Ils appellent à un rassemblement samedi 3 février Vous savez que Joliment, on en a parlé ici avec Michel Roger, on en a parlé ici dans Tempête sur les planches, doivent quitter leur lieu, donc à Saint-Ouen, la fameuse Belle Étoile, cette école, cette ancienne école, qui depuis 19 ans est le théâtre de Joliment, mais maintenant cette mairie qu'ils appellent, entre guillemets, socialiste, hein, a décidé qu'il préfère qu'il y ait une autre compagnie de théâtre qui s'installe là-dedans. Donc Joliment, l'avenir de Joliment est nomade ou incertain, ou on ne sait pas encore. Hein. Mais alors leur communiqué, ils nous disent ceci. Notre belle étoile va cesser de briller, du moins sous ses, entre guillemets, socialistes cieux si inhospitaliers à son égard. Voilà bien longtemps que nous vous laissons sans nouvelles, alors que non, on a eu des nouvelles, et ne vous inquiétez pas. Et vous vous dites peut-être, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, eh ben non, justement, voilà, bof, disent-ils, comme quoi certains adages n'ont aucun sens. Quoique, bon, peau de terre contre peau de fer s'avère malheureusement une fois de plus exact et sans surprise. Malgré l'accompagnement gracieux de ténors du barreau parisien, la municipalité de Saint-Denis n'a pas bougé d'un iota à notre rencontre. Aucune reconnaissance du travail effectué pendant 19 ans, de la mise en état, de la conception et mise en œuvre du lieu, aucun dédommagement de notre saison spoliée. Seulement une indemnisation a priori de nos frais de déménagement et un délai de 5 semaines accordé pour mettre en œuvre le dit déménagement. Méthode autoritaire dans le vent. Alors, malgré une pétition de bientôt 10 000 signataires, un gros comité de soutien, moult personnalités politiques ou artistiques, les médias, nous voilà gros gens comme devant et depuis notre mobilisation de mi-décembre avec Hypernova. C'était un événement organisé par Joliment. Alors, nous trions, rangeons, jetons, donnons, recyclons nos costumes, décors, matériel technique, archives, matériaux, documentation, mobilier. Nous cherchons aussi activement une nouvelle terre d'accueil. Quelques pistes à suivre. Nous savons que beaucoup d'entre vous cherchent de leur côté. Merci. L'idéal étant un lieu où l'on puisse se produire, accueillir d'autres spectacles, concerts, débats, soutiens, rencontres, évidemment politiques. Transport en commun à proximité, ah oui. Ils cherchent. Donc, pour tout savoir, joignez-vous à nous, dit-il. Joignez-vous à Joliment. Le 3 février, rassemblement, à 13h, voilà, devant la Belle Étoile. Et la belle étoile s'éteindra officiellement avant d'aller briller sous de meilleurs auspices, on l'espère. Hein, donc, ça, c'est Joliment. Il faut aller sur le site internet compagnie CIE. Jolimoum.org et là, vous allez trouver tout, bon, les dernières nouvelles, etc., etc. Bon, c'est vrai que beaucoup de gens se sont mobilisés, beaucoup de gens très connus aussi, Ariane Mouchkine, bien sûr, y incluse, et bon, le maire a répondu dans sa lettre, le maire de Saint-Denis, il dit on vous a quand même donné assez de temps, et c'est comme ça, hein, c'est pas à vous le lieu, c'est à tout le monde, etc., blabla. Quand même 19 ans, donc presque 2 décennies de travail de Joliment là-dedans, c'est carrément une institution de Saint-Denis. Et pourquoi est-ce que une mairie doit virer une compagnie qui a son assise et qui a beaucoup fait aussi pour l'image de Saint-Denis, quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc, si on veut avoir une autre compagnie avec peut-être plus de spectacles, etc., à Saint-Denis, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités ? Bon, allez, c'est donc le 3 février, samedi prochain, à 13h, rassemblement à la Belle Étoile, Joliment. Et allez sur le site, je le rappelle, vous pouvez avoir tous les détails. Compagnie, donc CIE-Joliment, en un seul mot, .org.
بنال وجد روحي لو بير عباد تبوعي تحتيفي ماشي لارمي تصوفيني نخرج من تمديكا لي روح فيك على بلا لاكي انسى شعرية ماشي والدي اللي راح يورقوا عشرين حتى عالطابلة الشركة عطلة قلتونا نروحوا لارمي نولوا رجالة ما تكمروش بينا الزنقة عالمة.
Et comme nous sommes dans les annonces, alors je vous ai invité à aller à la librairie du Monde Libertaire pour les livres, les disques, le Monde Libertaire, etc., tout ce qu'il y a là. Et aujourd'hui aussi à 16h, un concert, le concert de Frédéric, sous le titre Vincent, Auguste, Paul et les autres. Alors la chanteuse Frédéric, elle chante les peintres et les poètes, elle est accompagnée à la guitare par Didier Guegde. Voilà, c'est l'association Mots et Musique qu'on connaît bien aussi à Radio Libertaire. Et donc il y a des textes en musique, des textes Fungor, qu'est-ce que c'est en fait, entre la peinture et la poésie, donc inspirés de tableaux, mis en musique de textes, donc Fungor, Rimbaud, Jean-Roger Cossimon, Auguste Macke, Guillaume Apollinaire, Wim Wenders, Paul Cézanne, Louis Aragon, Auguste Noir et Léo Ferré, voilà. Aujourd'hui à 16h à la librairie du Monde Libertaire et dimanche prochain à 16h, voilà le chanteur Sarclo en concert. Sarclo chante Dylan, Bob Dylan, in French, mais surtout il chante Sarclo, voilà, ça c'est... donc dimanche prochain à 16h également à la librairie du Monde Libertaire à Publico, et l'adresse, je vous le rappelle, c'est le 145 rue Amelot dans le 11e métro Oberkampf, République, Fille du Calvaire. Et quoi d'autre, oui, intéressant aussi, accès et participation libre, donc accès libre et puis participation au chapeau pour ces deux concerts à la librairie du Monde Libertaire.
لي صاب لي راحو خسارة مراش الارمي ونار فنجوز ياماتي انسومي مساق سبعوني خفو علينا محدو تساني هي شعلة هادي ماشي غير تخمامي تخمام ولا تحومتي صقنات الحالة مصوصون دو جينيراسو تاعنا ماهيش قابلة جينيراسو كوفر فو ديكونومي تعاني من بوتشي تاع الارمي حنا ما درتو لحتى بروجي ولا حكمتوني قطعولي رجليا ونعرف نقطع صباعي لي تيري ونعرف نفاصي اسمي ونعميري ونعرف نقطع صباعي.
Alors, et maintenant, Tempête sur les planches. Voilà, tout près de la place de la Nation se trouve un petit théâtre qui s'appelle Comédie Nation. Et là, on peut voir beaucoup de spectacles, on ne peut pas les présenter tous, de toute façon, le lieu n'est pas la raison. Pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui deux spectacles? Il y a Ara Berlin, une pièce de Jalila Bakar, mise en scène par Malika Tsirari, et Malika Tsirari est avec nous. Bonjour Malika. Et en même temps, ou dans d'autres jours, à d'autres horaires, vous pouvez y voir « M'en allant promener », c'est le titre d'une pièce de Jean-Frédéric Vernier, et la mise en scène est de Serge Sander, ils sont ici très nombreux. Donc c'est pas un match, hein, ça serait pas du tout juste vis-à-vis de Malika Tsirari, seule contre le grand groupe qui est venu pour nous parler de « M'en allant promener ». Les deux spectacles sont dans la même salle, à la Comédie Nation. C'est un hasard, mais c'est peut-être pas un hasard. Peut-être que dans ce théâtre, tout simplement, il y a des choses intéressantes à voir. Alors d'une, j'explique que je connais bien Serge Sander, et si vous écoutez régulièrement Tempête sur les planches depuis la vingtaine d'années, ou je sais pas combien, là, ça existe, eh ben, vous avez sans doute entendu Serge Sander déjà plusieurs fois. Voilà. Et Ara Berlin, ça c'est donc la compagnie qui m'a envoyé ces informations, et j'ai trouvé cette pièce vraiment intéressante. C'est la compagnie Calimint, et ben... Maintenant, Malika Tsirari, tu peux nous dire un peu
j'entends rien.
D'où tu viens et si tu as toi-même fondé la compagnie, qu'est-ce que vous faites? Bon, raconte-moi qui vous êtes.
Bonjour et merci de m'avoir invité. Je me présente donc. À vous, je suis comédienne, metteur en scène. Je suis Je suis originaire du Maroc, j'ai une double culture. Je suis venue donc au Maroc après mes études là-bas pour après le bac, et après je suis restée en France. Donc moi j'aimerais bien vous parler comment le théâtre est entré dans ma vie. Pourquoi il est entré dans ma vie un peu, je veux dire, tôt et tard. C'est-à-dire, quand j'étais au Maroc, pendant ma jeunesse, je voyais un théâtre qui était réservé à l'élite et qui était prohibé par les classes sociales, qui était mal vu, en fait. Donc il y avait ces deux choses. Il y avait une classe qui avait envie de voir ce théâtre, qui profitait de ce théâtre, donc l'élite, les classes sociales aisées, et les autres classes, dont je faisais partie, étaient écartées de deux façons. D'abord parce que ils n'avaient pas les moyens d'y aller, ils n'avaient pas connaissance de l'existence de ce théâtre, et ensuite parce que c'était mal vu surtout pour les filles de fréquenter donc il était pas question pour moi de faire le théâtre dans ces conditions. Voilà. Et donc quand je suis venue en France, j'avais toujours ça dans ma tête, cette idée de ce souvenir de comment étaient traitées les filles de mon milieu social qui osaient vouloir faire du théâtre. Et c'est pour ça que je dis qu'il est rentré dans ma vie tard, parce que tard, moi, j'ai commencé vraiment à apprendre à faire du théâtre en tant qu'amateur, avec des groupes amateurs et tout ça. J'avais pratiquement 40, 45 ans. Et c'était pour moi une nourriture indispensable. Et puis par la suite, j'ai eu envie de creuser encore un peu plus. Donc, je me suis dirigée vers le théâtre un petit peu professionnel. Donc j'ai fait un cours de théâtre, les cours Florent, qui m'ont beaucoup beaucoup apporté, même si on dit que c'est des usines, etc. Mais moi j'y ai appris beaucoup, et j'ai passé vraiment 3 années extraordinaires où ça m'a ouvert des horizons, voilà. Et puis après j'ai commencé à jouer, et en fait ce qui m'a emmené après j'ai créé ma propre compagnie, et ce qui m'a emmené à créer ma propre compagnie, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait toujours les mêmes auteurs qui revenaient, les mêmes thématiques, le monde d'où je venais était sous-représenté dans ce théâtre-là. Et une chose m'est revenue, en fait, c'est en relation avec ce que j'ai vécu aussi avant de venir en France. C'est que il y avait un théâtre, je sortais d'un pays qui était sous protectorat, donc le théâtre auquel on avait droit, c'était le théâtre occidental, et ça se prolongeait ici un petit peu, j'avais envie de d'ouvrir une porte vers un autre théâtre, de casser un petit peu ce plafond de verre. Et donc j'ai créé ma propre compagnie avec comme objectif de donner à voir des auteurs arabes. Voilà. Pour moi, ils étaient eux-mêmes à même de traiter de certains sujets, d'exploiter certaines situations, de parler d'eux-mêmes, et puis de manière, parfois les sujets étaient très universels, mais il y avait quand même ils apportaient quelque chose par le biais de leur inconscient collectif, par le biais de leur vécu, ils voyaient les choses différemment, et du coup ça donnait à voir autre chose enfin, en ce qui me concerne. Et puis j'y retrouvais, j'avoue que j'y retrouvais beaucoup de choses de mon enfance, de mon vécu, de comment je percevais l'Occident aussi, et comment je... Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Thomas ?
Mais ça devient très très intéressant, justement, cette pièce Ara Berlin de Jalila Bakar. Qu'est-ce que c'est comme théâtre ? Je me suis un peu posé la question. Alors, Jalila Bakar est tunisienne. Tu pourras nous parler d'elle et du choix de cette pièce. C'est une sorte de comédie sociale, hein, qui aborde un peu le thème des couples mixtes et la rencontre des cultures. Rencontre des cultures entre, dans ce cas, l'Allemagne et la Tunisie.
Alors, c'est une pièce en fait. Enfin, si je dois parler de Jalila Bakar, c'est quand même une dramaturge très très connue dans son pays, connue en France mais par une élite, parce que elle a déjà présenté des spectacles au théâtre de l'Odéon, mais qui est quand même qui reste pratiquement inconnue du grand public. Et je trouvais cela dommage, parce que c'est une femme extraordinaire qui travaille pour un théâtre libre, indépendant, qui a toujours milité pour ça. Et dans ses pièces, il y a toujours ce qui se joue, c'est toujours le rapport, la politique, l'argent, la religion. Est-ce que ça peut induire dans une société? Et quand j'ai lu sa pièce, j'ai tout de suite adhéré, parce que ça me parlait énormément. C'est tellement universel, c'est ce qu'elle raconte, et en plus ça touche profondément chacun de nous. Et puis aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça, c'est elle n'a pas de parti pris, elle expose les faits et elle met le spectateur face à ces faits, à lui de voir, à lui de juger, à lui de critiquer. Et puis aussi à la beauté de son écriture, une écriture tellement belle, c'est une écriture poétique, c'est un style, c'est voilà. Maintenant, si je dois parler, en fait, ça c'est une chose, mais ce qui m'a beaucoup aussi intéressée dans cette pièce, c'est comment elle expose des faits, comment à partir d'un soupçon, une réaction en chaîne peut être déclenchée dans une société. C'est-à-dire qu'on est là dans une famille tout à fait normale, heureuse, composée d'une femme libano-palestinienne, mariée à un Allemand qui vit à Berlin. Ils ont un enfant et chez eux habite son frère à elle. Donc parfaitement intégrée, tout le monde se porte bien, tout le monde était heureux. Et puis un jour, son frère à elle disparaît. Et donc il y a un soupçon de terrorisme. Et à partir de là, en fait, tout est parti de ce fait pour engendrer une réaction en chaîne et donc rejet de tout le monde, harcèlement, perte de confiance, et puis même au sein du noyau familial, donc tout se brise, c'est-à-dire que tout ce qui était là jusque-là bien consolidé, les fissures se mettent à apparaître et grandissent de jour en jour. Et en fait, avec ce fait, je me suis rendu compte que on s'est retrouvé, je me suis retrouvée avec ces faits-là qui a engendré cette disparition et cette suspicion. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit dans nos sociétés occidentales, c'est-à-dire on se retrouve devant, par exemple, la violence policière, le problème, les thématiques de la violence policière, les thématiques de l'immigration. Et moi, en ce moment, je me retrouve en plein dedans avec toute la problématique de l'immigration, la loi immigration, tout ce que ça engendre, et l'influence des médias, elle est très présente dans la pièce. Comment pour les médias, ce fait est devenu comme un pain béni, et comment c'est devenu sujet à faire de l'argent pour les médias, pour les journalistes, pour les journaux, pour tout ça. Et en toile de fond, évidemment, il y a ce qu'on voit en ce moment qui est, parce que c'est, voilà, en toile de fond, il y a le conflit israélo-palestinien, parce que elle est palestinienne. Et donc, cette femme qui s'appelle Aïda, elle se trouve déchirée, elle se trouve tiraillée, elle se trouve dans un entre-deux pratiquement insupportable, parce que elle est entre le désir qu'elle a de s'intégrer, de faire partie de cette société, et puis le rejet qu'elle subit tout à coup parce que son frère a disparu, elle ne retrouve plus sa place. Et son fils aussi, qui subit des harcèlements à l'école, donc il est tiraillé entre son père et sa mère. Le père qui... Il fait de son mieux, mais il n'arrive pas à trouver sa place au milieu de tout ça. Donc c'est tout ça, ça part en vrille. Et voilà. Et donc c'est ce qui m'a beaucoup intéressée dans cette pièce. Et c'est incroyable parce que Jalila Bakar a écrit cette pièce au lendemain du 11 septembre. Elle lui a été commandée par un théâtre à Berlin. Je ne sais pas si je vais bien dire le nom. La Festspiele Theater, c'est ça, à Berlin. C'était au lendemain du 11 septembre. Et elle a écrit cette pièce. C'est une écriture au plateau, en fait, avec des comédiens allemands, alors que elle ne parle pas un mot d'allemand. Et c'était une création au plateau avec son mari qui faisait la mise en scène. Donc au départ, elle a été sa présentation s'est faite en allemand avec des Allemands, dirigée par son mari à Berlin. Et après, elle a été jouée en France, je crois en 2008, mais très peu connue, cette pièce, en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment, parce que en lisant cette pièce il y a 2 ans, hein, j'ai pas, parce qu'il y a des gens qui croient que je la travaille depuis octobre, le 7 octobre. Non, c'est pas vrai. Je travaille dessus depuis 2 ans. Et quand j'ai eu cette pièce entre les mains, quand j'ai fait des recherches d'abord sur Jalila Bakar et tout ça, j'ai hésité entre plusieurs. Mais celle-là, elle m'a tout de suite emportée parce que je trouvais qu'elle était tellement d'actualité déjà il y a 2 ans et qu'elle était universelle. C'est-à-dire que Arabe Berlin, ça peut être Arabe Paris, ça peut être, voilà, c'est un Arabe quelque part là où on ne le prédestine pas à vivre. C'est-à-dire, dès qu'il part de là, ça y est, c'est devenu le bouc émissaire de beaucoup de choses. Évidemment, là, maintenant, je me rends compte qu'elle est encore plus d'actualité. Parce que, justement, il y a ce problème, ce conflit israélo-palestinien qui s'est greffé dessus. Et donc, ça la rend encore plus pertinente aujourd'hui. Voilà. Est-ce que j'ai répondu?
Bien sûr. Voilà. On va revenir un peu à la musique et on discute un peu plus encore de Arabe Berlin après la musique. Et il faut juste dire que c'est vraiment une comédie, qu'on rit quand même beaucoup avec cette pièce.
Oui. Oui, on rit énormément parce que dans cette pièce, il y a des personnes...
On suicidait des galeries algériennes, les lits jamais viraient où l'hum, les lits chômage gâtent les lits malgaches chedma, chaïd de l'hétam gabel, les lits violets ou hassel, les micro y brisis, scadi carhol battle, les chômage.
قدام خويا يلزملك تجري بالك يخلوك تختم الشومور علاش قاهو ما تدري بالك البلاد تتسكن كثروا لي سويسي بريفاتيزاسيون ديريكتور جديد غير تاع باص اللي فيه جابها بيستون بريسيون ديميسيون هكاش البلاصه اسم متفاصه وراه الخلاصه حاوزو باصه سطح طراصه Négatif ce qui se passe, on a venir voir que c'est face ça. C'est quoi ça? Voilà la société, n'in khredjit had rasa. À cause de vous, le monde du travail est pourri. Jusqu'à la moelle épinière, c'est comme si quelqu'un avait donné un coup de pied dans la fourmilière. Et les patrons d'aujourd'hui, ce sont les plantons d'hier. Le moindre secrétaire a du pouvoir, faut le voir pour y croire. Inimaginable, le nombre de dossiers qui moisissent dans leur tiroir. Tu veux que ta demande soit traitée avec considération. Faut que t'aies le même nom que le patron ou juste l'un des pions. C'est non, t'es dans le pétrin, tu ne mangeras pas à ta faim. Bien que tu sois qualifié, t'es sacrifié, répertorié dans la paperasse à oublier.
Marqué, yes. Cousin Chaban ou Chapir Koudema.
Tout le monde est casé, le compte y est. Nos entreprises vous appartiennent. L'objectif populaire est dévié.
T'es un brouillé, il s'est mis à t'idri. Bella qui chaloupe t'ichtem. Chômeur, elle est chkahoum et t'idri. Bella qui l'éblète et t'sikem. Ktrôli suissé, privatisation. Directeur j'tid, gire ta base privé. Jabha piston, repression, démission. Rekesh le blasa, esm met fassa. Warra l'khlasa, haouzo bassa. Stah trassa. Négatif ce qui se passe, on a venu voir que c'est face.
Ahki le kras qui yhbes, mettre fahem trend. مبلوكيين راسهم يابس 20 ساعة وانا نرن والدوسي حابس في السابوطاج فن عندي الدبلوم حاب نخدم على شقايا في عمري 23 هذا ونكمل تقرايا اروح انت وخمم في الزواج وظهرك لاصق في الحيط اقطع ليات من جهة الحاج بلا برطمة اخبط راسك في الحيط خيط تاع زوج مترات وهي فرات البيبان قاع خبطهم حتى تكسروا يديا زعما عندي جناحتين يلزم لي كتف والديا والديا اللي شادين على الشعرة يقدروا غير عدعاوي اللي عمرو ما يحوس يبها ورق الورق غير دوسي وبلا شكاوي لازم من جيب اكسبيريونس تاع خمس سنين كيفاش والدبلوم عنده شهر هبلتوني رايح جاي انتوما لي زومبوش مور الظهر ويد عمو خو صاحبو نكرهو ولا نحبو
يا خويا يلزملك تجري بالك يخلوك تختم الشومور علاش قاهو ما تدري بالك البلاد تتسكن كثروا لي سويسي بريفاتيزاسيون ديريكتور جديد غير تاع باص اللي فيه جابها بيستون بريسيون ديميسيون مكانش البلاصه اسم متفاصه الخلاصه حاوزو باصه سطح طراصه نيجاتيف سو كي سباصه اون افنير واك سي فاصه
سيد تنبكر على التسعه تاع الصباح شمال فريش غالات نشوف ليك اش معرفه ونخرج زوج كويرطات طاح عليا الفينومان تاع الخدامين اللي ما يديروش خدمتهم
في
الغاشي ما يحمدوش ربي يبارك بلايصهم على جالهم فاميري جبت الطناش ودرت عياطك كما ما يصراش لي زادمينيستراسيون قسموهم ديكلون تعرف في العساس تاع الدخله سي بون ترفد البامي في نص ساعه ما كلهت ولي على شهر نكمل على الزوج نلقى روحي في بارني مسمر لا قدروش يديروا لي الكارطه تاع الجروباج وعلاش وانا على بالي ديروا روبورتاج على الخمسه رحت الليس اللي قريت فيه نجيب سيرتيفيكا كش ما ندير ستاج جيب لنا دوموند واللي العمل جاي نشوفو استنى خليها في الدوزيام ايطاج على السبعه للدار مبريزي على ال11 تاع الليل جاني عمي مرصاد مني بخبر ولي مكريزي كونديتا كي ريفيزي راقدو قلبي معمر تعرف بوليسي ولا مقلع واحد ما يهضر معاك غدوه من داك تلقاني نايض على الربعه تاع العشيه وبابا في الصالون يعيط رايح ليه هو على بالي او داير قرا سير سير عليا
خدام خويا يلزملك تجري بالك يخلوك تخدم الشومور علاش قاهو ما تدري بالك البلاد تتسكن كثروا لي سويسي بريفاتيزاسيون ديريكتور جديد غير تاع باص اللي فيه جابها بيستون بريسيون ديميسيون مكانش البلاصه اسم متفاصه وراه الخلاصه حاوزو باصه سطح طراصه نيجاتيف سو كي سباصه اون افي فوا سي فاصه خدام خويا يلزملك تجري بالك يخلوك تخدم الشومور علاش قاهو ما تدري بالك البلاد تتسكن كثروا لي سويسي بريفاتيزاسيون ديريكتور جديد غير تاع باص اللي فيه جابها بيستون بريسيون ديميسيون مكانش البلاصه اسم متفاصه وراه الخلاصه حاوزو باصه سطح طراصه نيجاتيف سو كي سباصه اون افي فوا سي فاصه خدام خويا يلزملك تجري بالك يخلوك تخدم الشومور علاش قاهو ما تدري بالك البلاد تتسكن كثروا لي سويسي بريفاتيزاسيون ديريكتور جديد غير تاع باص اللي فيه جابها بيستون بريسيون ديميسيون مكانش البلاصه اسم متفاصه وراه الخلاصه حاوزو باصه
نيجاتيف سو كي سباصه.
La musique musique. On va s'arrêter, on va reprendre doucement ici Radio Libertaire 89.4. C'est tombé sur les planches avec Thomas Lambourg. Et nous voilà. Alors, Janila Bakar est une autrice tunisienne, une dramaturge que tu as rencontrée.
Oui, que tu as rencontrée.
Ça date à peu près sur le temps. Moi, je me souviens, je suis aussi allé à Tunis à l'époque quand j'ai récupéré ce rap tunisien. Mais c'était encore avant la révolution de Jasmin. Mais il y avait effectivement des grandes figures du théâtre en Tunisie. Seulement après, on peut se poser la question, hein, est-ce que c'est du théâtre occidental ou qu'est-ce que c'est comme théâtre? Parce que non seulement elle nous parle avec beaucoup de finesse de ce conflit culturel, elle dessine aussi la société occidentale. Et elle la saisit très bien. Notamment dans ce conflit de génération entre le père et le fils, ce père qui est un homme d'affaires et le fils qui lui reproche, mais toi tu ne résistes pas, tu as ta tête baissée devant les maîtres de la terre, alors que lui était, avant, il était un militant d'extrême gauche. Aujourd'hui, il s'en met plein les poches, il voyage partout en avion, bien sûr. Voilà, elle saisit les deux choses. Elle connaît très bien la société occidentale aussi. Et alors, il y a aussi une chose très intéressante, c'est que sur scène, les personnages font des commentaires sur leur propre situation, sur eux-mêmes. Ils ne sont pas toujours dans la situation de dialogue. Ils ont un regard aussi, il y a une distanciation. Et là, comme ça a été écrit à Berlin, alors je me demande si ce n'est pas un petit hommage à Berlin et à Brecht.
C'est possible. Mais en tout cas, ce va-et-vient entre l'incarnation et la narration des comédiens, le comédien-personnage, il passe de l'un à l'autre, c'est aussi pour inclure le spectateur, pour le mettre, pour lui permettre d'être non seulement spectateur, mais aussi se faire sa propre réflexion. On s'adresse à lui comme à un confident, pour lui permettre de donner son avis sur la situation, pour mieux l'inclure dans le débat.
Bah oui, c'est bien de ça qu'il s'agissait chez Brecht.
Voilà.
Tout à fait.
Et c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, Thomas, que c'est drôle par moments, parce que il y a dans cette pièce des personnages extrêmes qui sont pas très sympathiques, pas très attachants, et qui ont chacun une motivation propre. Chacun avance ses arguments et on comprend qu'ils véhiculent tous des cicatrices et des vécus douloureux. Et en fait, très vite, on comprend que leur rejet de l'autre est un symptôme en fait de révélateur de leur fragilité, et ils cherchent à le compenser par ce racisme, par ce xénophobie, parce que dans le rejet de l'autre, ils trouvent une solution à leur propre douleur intérieure, en fait. Parce que tu as vu, Thomas, il y a cette ex rescapée de l'ex RDA, rescapée de l'ex RDA. Il y a ce médecin gynécologue qui a été radié de l'ordre des médecins. Il y a ce tueur de chiens qui a été interné en hôpital psychiatrique, et tout ça, ça fait un monde qui tourne autour de ça, et en fait, ils trouvent ça comme un bouc émissaire, et ça leur sert en fait pour ils exploitent en fait la situation pour trouver un petit peu d'apaisement à leur douleur, quoi.
Oui, c'est tellement fin, plein de finesse, d'observation, etc. Il faudrait la voir deux fois au moins pour saisir tous ces détails, toutes ces observations, ils sont très intéressantes. Justement parce que, bon, elle vit quand même en Tunisie.
Oui, elle vit en Tunisie, mais elle voyage énormément parce qu'elle joue un peu partout. Là, je l'ai appelée l'autre jour. Elle m'a dit qu'elle va rentrer bientôt, mais elle va venir à Paris, parce que moi, quand je l'ai rencontrée, moi, j'ai tenu absolument, comme je fais à chaque fois, j'ai fait ça avec ma pièce précédente aussi, quand je monte un auteur, j'aime le voir, passer un moment avec lui, voilà, et je l'ai trouvée très attachante, très intelligente, voilà, cultivée, enfin c'est une femme extraordinaire. Et en fait, elle a sa propre compagnie à Tunis, elle milite pour un certain théâtre, c'est une femme très active, et elle, c'est une femme, en fait, elle est comédienne de cinéma et de théâtre. Et donc là, elle donne des représentations, elle fait des choses un peu partout dans le monde, mais elle va venir à Paris, elle attend pour avoir son visa, parce que c'est pas chose facile d'avoir un visa pour les Tunisiens, les Marocains, pour tout le monde. Donc, mais elle m'a promis qu'elle allait faire son mieux pour venir voir la pièce à Paris.
Alors, c'est une pièce que je trouve intrigante, vraiment drôle en plus, et très pertinente. C'est étonnant de voir qu'elle a écrit ça il y a 20 ans et à quel point ça nous parle d'aujourd'hui. Et c'est un peu frustrant aussi de voir que le monde n'a pas avancé du tout, et plutôt régressé. Et ben ça se joue quand, maintenant, à la Comédie Nation, tu peux nous expliquer, hein, où se trouve le théâtre et quel est votre créneau de présence.
Alors, le théâtre, la Comédie Nation, se trouve donc à Paris, dans le 77 rue de Montreuil, dans le 11e arrondissement. Le numéro de téléphone, c'est le 01 48 05 52 44. Et notre créneau, c'est tous les samedis à 18h30 jusqu'au 6 avril. Voilà, avec mon équipe que je tiens vraiment à remercier, parce qu'ils ont beaucoup travaillé avec moi. Il y en a qui sont avec moi sur ce projet depuis 2 ans. Avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de passion. Donc je remercierai Farah Benamar de Saint-Germain, Rémi Dessouart, Andrea Ferrer, Thierry Caïbo, Mayaline Huald, et puis une autre voix off qui nous vient du Maroc, Younes Yousfi, sans oublier notre fidèle et irremplaçable créateur sonore Thibaut Jarige. Voilà, nous serons vraiment très heureux de recevoir du monde, évidemment, parce que c'est un théâtre, c'est un théâtre engagé, c'est un théâtre qui résonne avec l'actualité, avec ce qui se passe, avec ce qui nous touche, qui questionne et qui nous met face face à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on ferait si on était dans telle ou telle situation?
Oui, c'est un théâtre intéressant. Ce serait un peu trop dire que je viens de le découvrir. J'y ai déjà mis le pied des fois, mais je vais regarder un peu plus, ok, ce qui s'y passe. Donc on va vous amener, on va y retourner après la musique, on va y retourner pour parler de m'en allant promener.
باش يطير زعف رابدين كلشي عدهر صبرنا بزاف 70% شتعودوا فيها قولوا لي لاشو الناس وقتاش شفتوا ليها كاش نهار كاش نهار واليوم عنا فيها اليوم نخبط يدي في بيرو منقوش ونعيط في وجهك انت في كلوش نبريزي سكات لي سكن القلوب كي تكون عندي الحق عيطة من عندي دوب ندوب لهنا اللي جمد هاد العقول ما نبوشي ودنك ما نقول مهبول انت قلبك انت قلبك نكرهك ونحبك ونحطيتي في قلبك بالمور هاد الميكرو نشفك ونفكرك مع المرايا نهضرك والعالي تحقدرو كرتونا الخدمة عكوكو عقاو ونجحو ونجوم مالين سوكو الماكلة تلقوها بالشبع للقرى والنجح وهي ليكم السلعة بصح كيف ريناها جبتونا البنان وإحنا بينا الخبزة رينا ضد الدبزة على كرطون فتات حتى الخبزة
استرشد من جديد عزمان ومن وطلع تقدر غير سيبا لابان تزيد بالعطني بزوج قطرات امان مكتوب فيها كولا ميدين ماريكان واستقطع اشراشي انا راني ماشي واللي معايا كان داير فيك الثقة ثقة خيوطها رقيقة تعذيب وخرفان واليوم كي تسمع صوتي من فوق هاد لاسان والناس ابنوتيزي ما كان له تسيزي لا ريجي غير صلي عسكات اللي شمع لودان غير صلي عسكات اللي شمع لودان لودان
Prends tempête sur les planches sur Radio Libertaire, 89.4, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, de la Fédération anarchiste. Voilà. Maintenant, on arrive à notre deuxième spectacle, à la Comédie Nation. Et le titre est « M'en allant promener » avec trois points de suspension. C'est une pièce de Jean-Frédéric Vernier, mise en scène par Serge Sandor. Et Serge, donc, tu peux nous introduire dans cette matière qui est très particulière là aussi.
Bah écoutez, c'est une pièce qu'un auteur qui s'appelle Jean-Frédéric Vernier a écrit. Elle est tout à fait particulière dans le sens où Jean-Frédéric Vernier est auteur dramatique, mais surtout il a passé plusieurs années comme bénévole au Petit Frère des Pauvres, une dizaine d'années, dont 2 ans où il a rendu visite à des malades en fin de vie qui sont aussi détenus, donc ils sont dans une prison à la Salpêtrière. Et de ces rencontres, il a écrit une œuvre de fiction. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui l'a tiré forcément de la réalité, du réel. Mais il en a vraiment fait une œuvre dramatique tout à fait particulière, tout à fait originale. Et c'est la rencontre entre le bénévole et ces gens qui sont en fin de vie. Donc il y a 5 personnages très différents, qui ont des histoires très différentes, qui portent beaucoup d'humanité, parfois beaucoup de violence. Aussi, bizarrement, on rit beaucoup dans cette pièce, alors que le thème est quand même très lourd. Et moi, ça, voilà, moi j'ai toujours... j'écoutais Malika, qui elle est arrivée tardivement au théâtre. Moi, je suis arrivé très tôt dans le théâtre, dans le sens où j'étais parisien, ma maman m'emmenait à la Comédie Française. Voilà. Mais par contre, j'ai été aussi très vite, tout en travaillant avec des professionnels, j'ai pensé que l'arme a toujours été aussi le théâtre a toujours été une arme qui peut transformer, qui peut changer les gens, qui peut changer aussi le regard des gens. Et donc j'ai toujours été passionné pour aller faire du théâtre dans les lieux tabous, dans les lieux où les gens ne vont pas, qui sont les prisons, qui sont les hôpitaux psychiatriques. Bon, j'ai donc un parcours tout à fait atypique. J'ai monté un spectacle à Cuba avec 200 malades psychiatriques, plus d'1 an de travail. J'avais monté les bas-fonds à Chaillot avec des SDF. J'ai beaucoup travaillé en prison, je crois que j'étais le premier à faire des créations en prison. Et tout ça avec la volonté aussi de faire des spectacles de grande qualité, donc on se donne beaucoup plus de temps, mais le résultat est tout à fait incroyable. Et ce qui est le cas aussi pour m'en aller en promener avec un seul comédien professionnel là, qui est avec nous, qui représente donc, qui joue le rôle du bénévole Denis Verbeselt, et qu'il fallait un personnage plus jeune, et les autres personnages sont quand même des personnes plus âgées, issues des Petits Frères des Pauvres. Donc on a commencé des ateliers fin février, et on a fait la création, la première version en novembre, et là on joue maintenant au Théâtre de la Nation sur une version, disons, définitive. Et ce que je dois dire, c'est ce qui m'apporte beaucoup, c'est quand même la qualité des comédiens qui n'ont pratiquement jamais joué, à part Patrick qui avait un peu d'expérience en tant qu'amateur. Et le travail qui a été fait, parce qu'en fait, c'est quand même des textes très lourds, très sophistiqués, avec ils demandent une mémorisation tout à fait particulière, très forte. Et on y est arrivé. Et moi, ce qui m'importe maintenant, c'est de donner la parole justement à Patrick, à Raymond, à Gino, à Denis, et aussi à Marie, qui sont qui d'abord n'ont jamais joué, n'ont pas souvent pris la parole, jamais. Pense peut-être à une radio. Et je crois que c'est vraiment très important que le théâtre fasse ce chemin-là. J'aime travailler avec des professionnels aussi, mais je pense qu'on a le théâtre a cette vertu, c'est-à-dire qu'il est accessible à tout le monde et qu'on peut aller très loin. Moi, j'ai aussi travaillé avec des jeunes qui venaient de la maltraitance, hommes comme je dirais jeunes hommes et jeunes filles, des gens extrêmement cassés, extrêmement cabossés, qui avaient complètement perdu leur narcisse, qui avaient aucune confiance en eux. Qui, la première chose qu'ils disent quand on les rencontre, on n'y arrivera jamais, ce qui était vrai aussi, Raymond qui me regarde, on n'y arrivera jamais, si on y est arrivé. Et je pense que c'est dommage qu'on n'en profite pas plus des vertus du théâtre, parce que c'est pas la danse, c'est pas la musique, que j'adore, mais ça demande beaucoup plus de technique, de formation. Le théâtre, c'est le corps, c'est la voix, c'est le regard. Et on a tous un corps, une voix, un regard. On peut travailler avec des voix cassées, on peut travailler avec des gens qui ont des handicaps. Et on tombe pas du tout dans quelque chose de... Voilà, on reste vraiment dans le théâtre. Et ça, je tiens à le dire, c'est pas une œuvre de charité, c'est pas du social, même si, effectivement, ça peut changer une partie de la société, mais... C'est avant tout un enjeu théâtral, un enjeu artistique qui m'intéresse et qui, par chance, aboutit.
Vous voyez quand c'est le metteur en scène lui-même qui dit de son travail que le résultat est extraordinaire. Bon, il y en a qui vont dire « Ah, mais je confirme, c'est vraiment extraordinaire. » Ici, par contre, là, tu as en ce moment un spectacle au Théâtre de la Bastille, je crois cet après-midi, encore c'est un Tunisien, qui est danseur en Belgique, professionnel, mais qui fait un spectacle avec sa mère. Et sa mère n'a jamais dansé. Et elle est aussi très intéressante. Parce que même en danse, on peut faire avec des mouvements, avec des gestes très simples, quelque chose de très intense. Ça marche aussi, ça existe aussi. C'est vrai pour la danse, oui. Et alors, dans ce spectacle-là, dans cette pièce, dis-nous un peu comment, jusqu'où va le côté documentaire là-dedans, dans cette écriture, parce que tout le monde qui est sur scène est tellement vrai, est tellement fort là-dedans. Mais alors, on fait parfois une confusion justement parce que ce ne sont pas des comédiens professionnels et parce qu'il y a des spectacles qui se font dans les prisons et qui viennent parfois jouer dans les théâtres, etc. Donc, on leur croit vraiment ce vécu incroyable, cet état de maladie, ce rapport à l'existence, ce rapport à la vie que l'auteur a rencontré chez ses détenus. Et quand on vous voit, vous, sur le plateau, on vous croit, ça. Et c'est une force. Et il y a autre chose, hein. On est ailleurs. On n'est pas dans le théâtre, mais on est dans la vie, on est dans quelque chose, dans une vérité très, très forte. Et comment ça s'est passé? Quelle est la part de documentaire dans cette écriture? Et jusqu'où est-ce qu'il y a peut-être un peu de fiction quand même?
Bah, si je dois parler pour Jean-Frédéric Vernier, on n'est pas dans le documentaire, on n'est pas dans le reportage. On est dans une vraie œuvre de fiction qui est inspirée de son expérience, de ses rencontres. Je dirais presque de son voyage, parce que aller dans ces lieux-là, finalement, c'est un voyage hors de la société ou dans une autre société, dans un autre contexte. Et à partir de là, on revient. Et sa qualité, c'est un auteur, c'est un romancier, c'est aussi un auteur de théâtre. Donc, c'est une vraie œuvre de fiction. Après, les comédiens, ils incarnent. Ils incarnent, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont des personnalités très différentes et je pense qu'ils se sont passionnés pour le théâtre et ça les a obligés à aller très loin, à aller rechercher très loin dans le travail, même dans la diction. Je suis vraiment admiratif du travail que vous avez fait et c'est très beau aussi le personnage du bénévole de Denis qui est en contrepoids et qui, comme on disait tout à l'heure, qui fait la balance, quoi, entre cet univers carcéral et la maladie, quand même. Et puis ce jeune homme qui vient essayer de trouver, de les relever, de trouver une sorte d'équilibre, de rééquilibrer un petit peu ces personnes qui, finalement, sont complètement happées par la mort, et lui vient redonner de vie, il y a un rapport qui est très beau, qui marche très bien.
Alors Serge, je te confie le rôle de l'animateur, tu peux nous présenter tous ces amis, peuvent se présenter eux-mêmes, et oui, rentrons dedans.
On rentre dans le dur. Ouais. Non mais j'ai vraiment envie, on va peut-être commencer par Denis, Verbe Celt, qui est donc un comédien professionnel et qui est plus jeune que les comédiens, comédiennes, et qui va pouvoir aussi raconter la pièce. Après, il y a Raymond aussi, Raymond de Becker, c'est ça, qui va aussi prendre la parole, même si elle est très intimidée, qui est actuellement me fait des grands signes, qui refuse de prendre la parole, mais qui va la prendre on va la forcer. Il y a Patrick Geffroy aussi qui est avec nous, et je pense que c'est intéressant que chacun parle de son personnage, de son expérience. Gino Thibault aussi, et Marie Brival. Il manque Moulay Séoul, qu'on salue, qui ne pouvait pas venir. Et je vais faire l'animateur, je donne la parole à...
Et donc, alors moi je suis donc Denis. Il manque aussi évidemment Jean-Frédéric qui n'a pas pu venir aujourd'hui, Jean-Frédéric Vernier. Alors, juste pour revenir sur le côté documentaire de la pièce, donc au niveau de l'écriture, Jean-Frédéric s'est inspiré donc de sa grande expérience, de son expérience chez les Petits Frères des Pauvres pendant 10 ans, comme tu l'as rappelé Serge, et donc pendant ces 2 ans en prison, en milieu carcéral. La pièce se passe dans un hôpital-prison, donc c'est un milieu, tu l'as dit aussi, un petit peu particulier. Et il a tous les personnages qu'il décrit, aussi bien son personnage de Frédéric, qui porte l'un de ses prénoms, il s'appelle Jean-Frédéric l'auteur, son personnage principal c'est Frédéric, donc que j'incarne, et tous les autres personnages sont des compositions, des recréations de toutes les rencontres qu'il a pu faire en prison et en hôpital prison. Et ce sont il a pris des éléments qui sont totalement véridiques et qu'il a rassemblés un peu façon entonnoir dans un personnage qui représente tel. Et donc il y a 3 personnages masculins plus mon personnage, donc ça fait 4, et 2 personnages féminins. Alors ta question, je me suis un peu perdu du coup, parce que
non,
j'ai parlé
pas de
ça.
Question, non, c'est voilà. De parler de, voilà, comme je
de,
fais
de l'expérience. Ah oui, alors,
voilà,
alors
de,
ce que
de
je voulais
ce que
dire
tu vis par rapport à ce projet qu'on n'a peut-être pas assez dit, mais qu'on fait vraiment avec le soutien des petits frères des pauvres, qu'on a répété des mois entiers chez les petits frères des pauvres, Et voilà, c'est une collaboration avec la Compagnie du Labyrinthe, tout à fait originale et tout à fait unique en fait aussi.
Alors juste pour parler d'un petit peu de mon personnage, tout à l'heure tu disais que c'est, ce que lui apportait en étant à l'écoute de tous les autres personnages, de leur apporter justement une forme de rééquilibrage, mais lui aussi ça lui apporte... une espèce de résilience. Ça lui apporte aussi à lui de communiquer avec toutes ces personnes, ces figures cassées. Il se rend compte lui-même et il va affronter sa propre cassure et de se soigner lui-même à travers ce parcours de m'en allant promener. Voilà. Et quant à l'expérience, moi, j'ai fait aussi du bénévolat. Notamment chez les petits frères des pauvres, j'y ai touché par le biais de séjours de répit et de vacances. Et je suis très heureux de participer à cette aventure parce que ça, c'est la première fois que je suis confronté à travailler avec des amateurs ou des gens qui n'avaient jamais fait de théâtre. Et ça m'apporte aussi à moi de devoir... retrouver une fraîcheur que peut-être je sais pas si je l'avais perdue, mais disons que je suis obligé de retrouver l'essentiel de la personnalité de ce que je suis. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire.
Oui,
et ça et ça m'intimide de parler devant ce micro. Voilà.
Sinon, juste pour dire, le personnage de Denis aussi le renvoie dans son passé, donc on va pas tout dire, et son passé est quand même aussi bourré de blessures et de violences. Et ça, c'est très intéressant, et ça se dit pas, ça, c'est rare qu'au théâtre y ait aussi peut-être ce côté autobiographique, et c'est très beau, c'est ces blessures qu'on entend aussi. C'est-à-dire que personne n'est épargné. Maintenant, on va donner la parole à Raymond qui fait des grands signes. Ben, dis bonjour, Raymond. Tu lui approches le micro, Patrick. Raymond, qui est... dis qui tu es.
Moi, dans la pièce, je suis une malade. J'ai fait un AVC. Alors, j'ai un petit peu la tête de travers. Et c'est une aventure formidable parce que j'ai jamais fait ça. Et arrivé à mon âge, j'aurais jamais cru faire ça. Parce qu'on m'a un petit peu forcé.
Mais tu regrettes pas?
Non, je ne regrette pas du tout, du tout. Mais c'est impressionnant.
Ben c'est très beau ce que tu nous dis. Bon, Raymond est toujours un peu intimidé, mais voilà, elle a un personnage, effectivement, qui donne beaucoup de poésie à la pièce, qui est le personnage final, et qui est dans la détresse du fait de son AVC, mais qui nous fait aussi beaucoup rire, et qui a une relation très, très, très drôle, justement, avec le bénévole, avec Denis. Et voilà, ça fait du bien, cette scène, elle nous fait à tous beaucoup de bien, je pense. Bon, maintenant, Patrick, vu que je suis animateur. Patrick Geoffroy, voilà. Ton personnage, et puis ton expérience.
Bonjour. Que tu vis avec. Alors, moi, j'avais travaillé avec Serge sur un spectacle, même deux. Et ça fait un an que je travaille sur ce projet-là. Et je ne suis pas professionnel, moi, mais c'est une expérience incroyable. J'ai rencontré des gens super. On a beaucoup travaillé. On a beaucoup appris. Moi, j'ai appris énormément de trucs. Moi, je joue un personnage qui a 77 ans, qui est assez rugueux au départ, et qui, en fait, en rencontrant le bénévole, va complètement... Il va s'installer une relation entre ce personnage et le bénévole qui est très très positive. Cette relation, il s'apporte à la fin de la pièce, on ne sait plus qui soigne qui. Est-ce que c'est Marcel, donc mon personnage qui soigne le bénévole, ou est-ce que c'est le bénévole qui vient écouter Marcel? Il y a une espèce de mélange comme ça, et ça c'est très 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 surprenant et très très important.
Et c'est, je me permets de continuer dans le sens qui soigne qui, et c'est même presque une histoire de très grande profonde amitié, voire d'amour, en tout cas fraternel, fraternité ou filiale.
Une grande amitié, et surtout une rencontre, quoi, entre deux personnes blessées, quoi, et qui s'apportaient énormément de choses mutuellement. Voilà.
Tu peux en dire plus aussi sur bah, voilà, ta rencontre avec le...
Et avec le groupe.
Avec les autres comédiens, des gens qui...
Bah, c'était... J'ai appris... comment dire? Humainement, j'ai appris énormément de choses. Sur le travail aussi, le travail de théâtre. Et, mais j'ai surtout appris que rien n'est impossible, quoi.
Ouais.
Rien n'est infaisable. C'était très, très, très enrichissant. Et je remercie l'auteur, je remercie le metteur en scène, et puis tous les gens qui ont participé au projet. C'était vraiment une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier.
Et qui continue.
Mais bien sûr,
on n'a pas terminé.
Bien sûr.
Bon, ben, comme je continue maintenant, Gino...
Moi.
Gino Thibault qui était avec nous, bah, raconte-nous ton personnage, et puis aussi, c'est important, l'expérience de ce qu'on vit, voilà, cette aventure théâtrale...
Bon, ben voilà, je m'appelle Gino. Et disons que j'ai un rôle d'un psychopathe qui entend des voix, etc. Un rôle assez important. Il peut être aussi bien agressif comme il peut être devenir gentil. Et disons que avec cette participation, entre autres, j'étais bien guidé par un bon metteur en scène. Et surtout, la pièce, elle est excellemment écrite. C'est important. Et j'ai rencontré à l'intérieur de ce spectacle des gens extraordinaires. Et ces gens-là, la première fois que je les ai vus, il y a eu un déclic. Je me suis dit, c'est des gens qui sont formidables. Et je me suis aperçu qu'on est devenu, entre chacun par les rôles qu'ils ont, comme moi j'ai un rôle, comme j'ai expliqué, de psychopathe, etc. Hein, je mords et je ne mords pas. Et j'ai rencontré ces gens-là, c'est devenu une équipe soudée. C'est ainsi dire, chaque personne s'encourageait. Et ça, c'est important, parce que c'est grâce aussi à ça que cette pièce elle a évolué entre nous, parce qu'on était main dans la main. On a été bien guidé par un bon metteur en scène qui était à l'écoute et qui nous guidait bien. Voilà. Et surtout, Jean-Frédéric Vernier, qui est le scénariste, qui a écrit vraiment une pièce de théâtre pour chaque rôle est magnifique. Hein. D'ailleurs, c'est la première chose, dans les débuts, je ne le cache pas, quand on m'a proposé ça. Oh là là, j'ai dit, parce que moi, c'est la première fois que je fais du théâtre, mais c'est pas la première fois que j'étais sur les planches en même. Et je me suis dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais jamais y arriver. Parce que j'ai dit, le texte, il était tellement dur et long, je dis, je vais jamais retenir tout ça. Mais au fur et à mesure, répétitions, etc., et vu que Denis, qui était auprès de nous, c'est le pilier de la balance, comme j'ai dit, hein, qui nous supportait les cinq rôles, c'est quoi de le dire. Et nous, on était les poids qui allaient faire grandir cette pièce de théâtre. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que cette amitié qu'il y a eu entre les acteurs, les metteurs en scène et l'auteur, ça a été extraordinaire pour moi. Pour moi, c'est une épreuve que j'oublierai jamais. Vous voyez, j'en ai eu des épreuves, mais pas dans le même domaine. Mais là, ça m'a apporté quelque chose de nouveau. Et je me suis dit... Eh ben, dis donc, je commence à comprendre que les gens de théâtre, disons, c'est pas de la tarte, hein. Mais on a fait quand même, c'est la vérité. Et je me suis aperçu que, à la fin, je me suis dit, mais j'ai regardé les comédiens, on peut dire les comédiens. Je me suis dit, mais putain, mais on va faire un tabac. C'est incroyable. Et on a réussi, et je suis fier, et je remercie beaucoup, surtout Denis, qui a été présent près de nous, qui nous a supportés, évidemment. Et le metteur en scène aussi, Serge Sandor, et Jean-Frédéric Vernier, qui est le scénariste. Moi, aujourd'hui, je tiens à dire une chose, si c'était à recommencer, eh bien, je le referai. Eh bien, je vous remercie tous, et puis je suis heureux d'avoir vraiment... Et je participe encore, attention. Alors, donc, si vous voyez, chers auditeurs, une affiche en allant me promener, n'hésitez pas, la porte est ouverte à rue de Montreuil. Voilà. Merci à vous tous.
Merci, Gino. Ben, maintenant, on va donner la parole à Marie Brival, qui doit aussi nous... J'aimerais bien que tu nous racontes comment aussi, parce que c'est vrai qu'on a, au mois de novembre, on a joué une version pas tout à fait aboutie, parce qu'il y a une comédienne qui, au dernier moment, n'était pas en mesure de jouer. Tu es passé d'un... Parce que la scène finale se jouait avec trois femmes. Aujourd'hui, c'est Raymond qui la joue toute seule. Et ça donne une ampleur et une humanité qu'on n'avait pas trouvé certainement avec les trois femmes, alors que c'était très beau quand même. Mais ça m'intéresse, parce que je connais Marie, puis bon, je vous connais tous, de savoir aussi qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé à jouer cette femme, Madame D, qui est un rôle où il y a deux scènes vraiment pareilles que pour Gino, Patrick, que pour tout le monde, mais quand même avec une quantité de textes, et que tu as fait le rattrapage, comme Raymond l'a fait, début décembre. Et le 13 ou le 23 janvier ont commencé. Voilà, ça m'intéresse aussi de savoir tout ce passage, et puis ton expérience et ton rôle.
Alors, j'ai eu ce rôle au mois de décembre parce qu'une personne a quitté le groupe. L'équipe, et donc j'étais pas sûre du tout de pouvoir assurer autant de textes et de jouer, puisque j'ai jamais joué la comédie et que je sais pas si je m'en sentais capable, donc j'ai mis quelques conditions avant de m'engager, et puis finalement c'était tellement bien écrit, c'est tellement bien écrit, chaque mot a un sens et un pesant d'émotions, j'ai adoré. Et donc, je me suis mis vraiment à apprendre le texte, et puis sous la direction de Serge, il est un petit peu comme un pygmalion, on a réussi à mettre en scène ce personnage qui est une bourgeoise d'une grande famille avec beaucoup d'éducation, mais qui effectivement se trouve dans un milieu médicalisé en prison à la Salpêtrière, et donc elle a tué deux femmes et elle est un peu hystérique, voilà, elle est mégalo, hystérique. C'est un vrai bonheur de passer d'une émotion à l'autre, parce qu'elle nous embarque dans sa dualité et elle est en même temps très catholique, très puritaine, enfin c'est tout un plein de décalages et à interpréter, c'est un vrai bonheur. Voilà, je me régale et j'aimerais vraiment beaucoup que on puisse continuer à jouer ensemble cette pièce écrite par Jean-Frédéric Vernier et mise en scène par Serge Sandor. J'aimerais vraiment, vraiment qu'on puisse promouvoir un peu ce spectacle. Pour ma première expérience, je suis ravie. Et il y a vraiment une très belle amitié qui s'est nouée dans cette équipe. Et si on pouvait la promouvoir davantage,
C'est absolument ravissant, je confirme. Et ce qui est très intéressant, c'est quand même, il n'y a pas d'école derrière. Donc chacun vient sur le plateau avec ce qu'il est. Et ça donne une confrontation d'humanité totalement différente. Et puis, c'est pas du tout une pièce de théâtre habituelle, parce que c'est une série de rencontres. Et il y a une chose intéressante par rapport à la confiance. Pour revenir à Ara Berlin, où mais le couple et les amis et tout ça s'aiment au début, et puis la méfiance s'installe, la confiance se perd, s'en va. Les amis désertent la famille, l'épouse libano-palestinienne, là, elle va repartir, son mari berlinois lui dit « Mais qui sait, finalement, si t'es pas une cellule dormante, toi aussi ?» Donc, la confiance en va, la méfiance s'installe. Ici, c'est l'inverse, n'est-ce pas ? Parce que la première rencontre avec ce bénévole, elle est dure, elle est parfois difficile. Il lui dit, il dit, pourquoi est-ce que je continue ça ? Qu'est-ce qui me pousse à venir là encore ? Etc. Et puis, j'ai l'impression que, petit à petit, j'ai pas pu voir jusqu'au bout, mais j'ai l'impression que quand même, petit à petit, la confiance s'installe. Des amitiés se nouent entre ce bénévole et les personnes qu'il rencontre dans cet hôpital-prison-là. Et il y a des amitiés, il y a la confiance. La confiance arrive. Dans une pièce, la confiance en va. Ici, la confiance arrive, elle se construit. Et ça, c'est beau à voir, aussi. Hein.
Oui, tout à fait. Et, attends, peut-être tu veux prendre... Et puis, y a, je pense qu'aussi, il y a... Ce qui est drôle, c'est aussi le parallèle entre ces acteurs, actrices qui sont venus, comme ça, des ateliers, et à quel point, aussi, dans le travail, en dehors des personnages, la confiance s'est installée. Comment Gino est arrivé au bout du rôle, comment Marie est arrivée au bout de ce rôle. Je pense que il y a 9 ou 10 mois, tu leur aurais proposé de jouer comme ça à froid. Voilà, ça m'intéresse aussi de voir le rapport de la confiance qu'on a pu installer dans le travail et aussi de la confiance qu'on retrouve dans dans cette fiction qui est M'en allant promener.
Ah, oui.
Voilà, donc Marie, Denis, dis-nous peut-être un mot.
Oui, la confiance, merci à toi, surtout du travail que tu as accompli en nous faisant confiance et puis ta tolérance à gérer chacun de nous dans ses petits soucis, ses petits peurs d'aller de l'avant, de nous avoir fait confiance. Merci à toi, Serge. Et c'est pour ça que on a pu grandir tous autour de ce socle que tu nous as porté, de nous faire confiance et de nous permettre de grandir à travers ses rôles et cette réunion de personnages fictifs en partie et grâce aussi à notre rapport personnel. Ça nous a fait grandir personnellement, je crois, parce que il y a eu comme une sorte de thérapie, si je peux dire, parce qu'on doit aller chercher des émotions, on doit trouver une incarnation qu'on n'est pas forcément susceptible d'avoir comme ça ou d'imaginer. Donc comme on n'est pas professionnel, et ben on va chercher un peu au fond de nous et ça nous permet de sortir des émotions ou des choses un petit peu personnelles. Voilà.
Moi je voulais parler, donc je suis Denis toujours. Ce qui m'a beaucoup plu lors des répétitions, c'est de voir justement tous ces comédiens entre guillemets non comédiens qui adoraient regarder les autres jouer. Il y avait une vraie générosité de la part de vous. Vous étiez toujours là en train de vous regarder et de vous apprécier et c'était très beau à voir. Et moi, ça m'a aussi beaucoup apporté de vous observer et de voir cette générosité et cette bienveillance chez les uns et chez les autres. Je voudrais aussi parler de très brièvement rappeler aussi qu'il y avait Samia Ramdani qui était l'assistante à la mise en scène dont on n'a pas parlé tout à l'heure et qui elle aussi était a fait sa bonne part de travail et qui était aussi évidemment présente aux répétitions et qui était donc à l'écoute et qui voilà, donc fallait pas l'oublier, on l'a pas du tout mentionné tout à l'heure et donc Samia, bien on t'aime aussi.
Merci. Voilà. Samia.
Oui, voilà. Très bien. Oui, bonjour, coucou à Samia. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait? Comment est-ce que vous avez abordé, en tant que nouveau comédien, là, jeune comédien que vous êtes, le fait de savoir que les personnages que vous rencontrez à travers cette écriture vivent quand même dans le réel? Parce que quand on écrit une pièce de théâtre, bon, c'est une fiction, ce sont des personnages qui sont imaginaires. Mais là, l'idée de savoir que la personne dont vous prononcez un peu les paroles, c'est très réécrite, etc., mais vous incarnez quelqu'un qui existe vraiment. Comment est-ce que vous abordez ça?
C'est simple, hein. Disons que quand j'ai lu le texte, etc., je savais que c'était déjà, ça existait en prison. Et puis je me suis dit, il faut que je fasse comme lui, il faut que je sois comme lui. Donc pour venir comme lui, il faut se mettre dans la tête, essayer de penser ce que lui, il avait ressenti quand il a fait ses crimes, etc. Donc moi, j'ai fait de mon mieux de me rapprocher de ce personnage. Et pour moi, je me dis, mais j'espère que dans la vie, je ne vais pas être comme ça. Je n'ai pas envie de finir en prison avec 15 ans ou 12 ans. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié vraiment ce personnage qui était dur, parce que c'est un personnage qui entend des voix. C'est un personnage qui peut être aussi bien gentil comme il peut être très méchant. D'ailleurs, il le dit sérieusement. Je suis gentil, vraiment, je suis un gentil garçon. Là, le gars, il change carrément de tournure. Et ce que j'ai apprécié aussi, parce que je parle aussi de mon personnage, mais aussi vis-à-vis des autres comédiens, que maintenant, ils ont joué un rôle extraordinaire. Donc, chacun avait un rôle précis à jouer. Un personnage, justement, de la prison, hôpital-prison. Voilà. Moi, si, comme je dis, moi, je remercie beaucoup, surtout Serge, qui a été adorable, compréhensible et qui nous a bien guidés. Et on avait un sacré accompagnement, un pilier. C'était Denis qui était là, qui écoutait, qui voilà.
Merci, toutes nos, merci
voilà.
Denis.
Voilà. Merci Denis. Voilà, voilà.
Je vais reprendre la parole parce que c'est vrai que c'est une question que je vous ai jamais posée, mais ce que pose Thomas, effectivement, est-ce que, par exemple, toi, Patrick, ou toi, Marie, tu as eu ce rapport en te disant, parce que c'est vrai que quand on joue une pièce de théâtre, 90% des pièces de théâtre qu'on joue, que ce soit des classiques ou pas, on interprète un rôle fictif. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même un réel qui donne aussi une authenticité tout à fait particulière à cette pièce. C'est une fiction, mais il y a quand même une force du réel qui est très présente. Donc juste, je te demande, Patrick, toi, par rapport à ce personnage qui existe ou qui a existé, qui est peut-être mort il y a...
Ouais, ce qui m'a marqué dans ce personnage qui a été écrit, là, c'est qu'au départ, c'est quelqu'un de très, très violent, de très brutal, de très à vif, quoi. Et au fur et à mesure de la pièce, il retourne au jeune homme qu'il a dû être. C'est-à-dire à quelqu'un de sensible, de chaleureux, de profondément humain. La vie l'a peut-être bousillé, mais le fait de rencontrer quelqu'un qui simplement l'écoute, d'avoir un échange normal avec une personne tout à fait humaine, il redevient ce qu'il a été sûrement au départ, quoi. Quelqu'un de gentil et sympa, quoi. Et j'ai mis un peu de temps à découvrir ce truc, mais c'est un mécanisme qui est intéressant. Comme quoi la rencontre, elle peut amener à redevenir ce qu'on était il y a sûrement très longtemps. Tout ce qu'on a perdu par la vie qui nous a bousillé, qui nous a cabossé, quoi. Mais ça m'a marqué. C'est pas que ça m'a marqué, mais ça m'a surpris. Voilà, surtout ça, ouais.
Mais, pardon, t'avais eu l'impression que ce personnage, il existait vraiment ?
Oui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on travaille sur un personnage et il devient quelque part, il a sa réalité à lui, quoi. Il est, Il est toujours dans l'imagination, mais il existe quelque part. Il existe en moi, quoi.
Oui. Quelque part. Et c'était très beau de voir l'évolution que tu as donnée à ce personnage au départ, qui est un petit peu dans l'agressivité, qui est un peu sûr de lui. Puis à la fin, il est complètement touchant, il redevient presque un enfant, il a du soleil dans les yeux, comme tu dis, comme dit le personnage. Et c'est très touchant de voir l'évolution et la finesse dans laquelle et la transformation du personnage au départ et vers
c'est aussi la force du texte
hein, c'est
qui est très bien écrit, quoi.
Ouais, tout à fait, faut le souligner. Jean-Frédéric a fait
acheter. Oui, et alors moi j'ai parlé à contrario par rapport à mon personnage. Mon personnage, il se pose la question justement de qu'est-ce qu'il est venu chercher à part le fait qu'il est bénévole et qu'il vient pour, comment dire, pas commettre mais faire une bonne action, quelque chose comme ça, pour parler un peu vulgairement ou un peu rapidement. Mais lui, qu'est-ce qu'il vient chercher? Et au fur et à mesure de cette traversée, de cette promenade, puisque ça s'appelle en allant promener, au fur et à mesure de cette promenade, c'est la confiance en lui qui va commencer finalement à arriver. C'est guérir. Il vient apporter ses soins en tant qu'auditeur, en tant qu'écouteur des blessures des autres, autant finalement en écoutant les blessures des autres, il va écouter sa propre blessure et le propre enfant qui a été malmené, on va dire ça comme ça, et qui petit à petit se met aussi lui-même à affronter la vie, à affronter aussi, à se rendre compte qu'il est puissant et qu'il est une belle personne, alors peut-être il avait un regard qui était plutôt négatif et de peur.
De toute façon, quel que soit, pour en revenir au théâtre et à mes rencontres, quand on travaille auprès de gens... qui sont dans des lieux tabous. C'est vrai qu'on n'a pas accès à des prisons, à des hôpitaux psy. Il y a peu de gens qui fréquentent ou des enfants qui viennent de la maltraitance dans des foyers ou des instituts médicaux, IME, tout ça. Et bien, toutes ces rencontres, quel que soit son passé, ce qu'on vit soi-même, moi, m'ont extrêmement aussi enrichi et m'ont extrêmement enrichi, même par rapport au théâtre, même sur ma direction d'acteur. Même avec les professionnels, je travaille plus comme avant avec des professionnels que quand je suis sorti des cours Mesguich ou des cours Raymond Girard ou de ma formation théâtrale. Tout ça m'a énormément apporté, m'a précisé dans mon travail de direction d'acteur ce que je vais chercher chez les gens et ce que l'acteur donne avant tout, quoi. Et comment transformer ce qu'il donne pour qu'il soit aussi dans une forme d'harmonie par rapport à lui-même, qu'il ne soit pas non plus brutalisé. Et voilà, toutes ces rencontres que j'ai faites, quand même un petit peu exceptionnelles, parce qu'on n'est pas des milliers de gens de théâtre à se balader dans ces lieux tabous, m'ont aussi apporté énormément par rapport au théâtre. Et on a oublié de donner nos dates, nous, par contre.
Voilà. Je te laisse la parole au vrai animateur. Qu'il y a une fin. Il y a une fin, donc c'était à 15h30. Donc on approche dangereusement de cette fin. Donc c'est le moment de conclure. Alors de rappeler où se trouve le théâtre, tous les deux dans le même théâtre. Ça je le dis, il y a certainement encore quelques autres spectacles dans le même théâtre qui sont intéressants aussi. Donc Ara Berlin, ça se joue, Malika.
Ça se joue tous les samedis à 18h30 jusqu'au 6 avril. Et la première c'était il y a une semaine.
Donc, le texte est de Jalil Abakar et la mise en scène de Malika Al-Sirari. Donc, merci d'être venu.
Ah, c'est Malika. Moi qui te remercie.
Oui, les tracts pour M'en allant promener sont très jolis, mais il manque le créneau, etc. Donc, vous jouez quand?
On joue tous les mardis, donc il reste trois mardis, donc mardi prochain, 30 janvier, mardi 6 février et mardi 13 février, à 20h aussi, au Théâtre de la Comédie Nation. Et
77 rue de Montreuil.
77 rue de Montreuil, vous êtes les bienvenus donc tous les mardis jusqu'au 13 février. Et on espère pouvoir continuer ailleurs, j'espère. Parce que ça le mériterait vraiment. N'est-ce pas, Marie ?
Oh oui ! Oh oui ! Oh oui, avec grand plaisir.
Et regarde, oh oui, oh oui !
On aimerait pouvoir continuer jouer cette pièce magnifique.
Voilà. Je crois qu'il y a eu un grand pas de fait, là.
Non, mais
je pense qu'on a beaucoup avancé.
Super.
Et puis, c'est vrai que si on continuait, moi, je dirais pas non, hein, franchement. Ah non, non, ben, y a, d'ailleurs, comme j'ai dit, il y a une très belle amitié, il y a beaucoup de choses qui sont produites pendant, voilà. Et surtout les écrits qui étaient formidables pour chacun des rôles.
Hein.
C'est incroyable.
Ah,
voilà.
Bon, voilà, merci à toutes et à tous d'être venus dans Tempête sur les planches. Et donc, on termine. Et ben, à 16h, si les uns ou les autres ont envie de passer l'après-midi en musique, en chanson, c'est Frédéric à la librairie Publico, la librairie du Monde Libertaire, au 145 rue Amelot dans le 11e, avec la chanteuse Frédéric qui chante les peintres et les poètes. Elle chante au sujet de Vincent van Gogh, Arthur Rimbaud, Jean-Roger Cossimon, etc., etc., et Léo Ferré aussi. Voilà. Ben, merci, on se retrouve donc en février. Tempête sur les planches, c'est le 2e, 4e, et peut-être 5e dimanche du mois à 14h.
Merci de nous avoir reçus.
Merci.
Merci.
Merci. À bientôt.
Au plaisir.
Au théâtre. 77 avenue.
Vive le théâtre.
77 rue de Montreuil. N'oubliez pas. تعرف وش صار البارح بالليل شحال من واحد مات 120 قتيل شحال تيت من قليل كل يوم حكايه وحده يتبدو غير البلايص غير لي نمرو كل بشره دارو زرده بعقلهم وحده الواحد يكره عمرو تزع علينا يا مات جران نقعك حوله كلش بلادي طاي قرد دخلات زبوله حتى نولي تكرهتهم ورابح ولا بومبير رانا في لاكابيتال محل هاد الشي يصير ما عندناش كيما هما نديرو فوق رسالنا وقدام باب الدار ديجا كاين كاسيرنا صغار يطيحو كي الخرطان نحنا كل ما نقراو تعنا نعرف قدرنا نقول الله يسترنا وهما سترهم التراب واللي يسلك كلشي عليه غاب الله يرحم دراري ويصبرهم على الحباب شفتو كيطاب خويا خطو بالصور غدوة من داك بكيت ربع قبور في عمر 11 وحكايته ما تأمنهاش مرمي في وسط الموتى سابغ روحو بالدم حكم دموعو للصبح وهو على بالو باللي تيتم وكاين نهضر ولا نسكت انا يا خاين اللي يسمع يكرز وهو واش نقول عليه كيفاه حبيتو يفرز بالملاحة والقباحة كيفاه حبيتو يلعب وينسى كلشي بالساحة عندو ديجا لي سوفنير تاع اونسيان مجاهد شافيك اليوم على وليد الحوش اللي جاي فيه يجاهد واذا غاب الطلاضات يقراها في 200 شاهد قاعد في بلاصتو جابت روحو عالدراري يشبع على يماه حباتو يخرج قاري ان شاء الله في لينوسونس في جيون نوار اي بلان بو دو باكي انسي جامي نقول لك نورمال علي لابوان تخلفو فليشا فحقولنا حاجة بانال تبادلو في هدى دارهم هو وصحابو شوالان واحد ما يقدر لهم نص الشعب ليلو فاطن فكروا جهوم الخوف ساكن قالوا لصداخر خانهم في عمر 22 مانيش قد هاد التخمام حبست سياسة 20 راني نشوف غير للقدام تخدم لي علي الديالوج هبرت
عطونا بالواحد قاعد خلنا في مونولوج خصم سيكولوج كاش جديد دي سوق اللي يجي يغويك اغسل يديك بالبيان لاف توا لي مان دي بان دو سون كي تي تيان كونترول لي ميان توت اي فيولونس تي براتيك وي جو نو سوي كان جامان كي سابليك جون غاستا مون جوجو اون بلاستيك واللي سميتو مرتد من عند الله يهديك وتي سويسيدي واللي جابوك للتلفزيون خص يقولولك سيدي
Enfant innocent, enfant innocent, y'a pas si longtemps.
Et tout n'est que des illusions depuis que je suis grand.
Depuis que je suis grand, adulte inconscient.
Je me rappelle avoir été enfant innocent.
Enfant innocent, enfant innocent, y'a pas si longtemps.
Et tout n'est que des illusions depuis que je suis grand.
Depuis que je suis grand, adulte inconscient.
Je me rappelle avoir été enfant innocent.
Enfant innocent, enfant innocent, y'a pas si longtemps.
Mais tout n'est que des illusions depuis que je suis grand.
Mais celui que je suis grand, adulte inconscient.
Je me rappelle avoir été enfant innocent.
Enfant innocent, enfant innocent, y'a pas si longtemps.
Mais tout n'est que des illusions depuis que je suis grand.
Parle pas le chérois,
je
suis grand. Adulte inconscient. Enfant innocent, enfant innocent, y'a pas si longtemps.
Mais tout n'est que des illusions depuis que je suis grand.
Depuis que je suis grand, adulte inconscient.
Je me rappelle avoir été enfant innocent.
Enfant innocent, enfant innocent, y'a pas si longtemps.
Mais tout n'est que des illusions depuis que je suis grand.
Depuis que je suis grand, adulte inconscient.
L'amour, c'est deux pommiers doux que tu portes au cou quand j'y prends mes hardes. L'amour, c'est un petit licou tout fait pour mon cou quand je m'y hasarde. L'amour, c'est comme un toutou qui fait les yeux doux quand tu me regardes. L'amour, c'est ça qui vient, on ne sait tout.